crise dans les territoires palestiniens. Le président Mahmoud Abbas et le premier ministre Ismaïl Haniyeh pourraient former un gouvernement d'union nationale. Les discussions ont commencé entre le chef de l'OLP et le premier ministre issu du Hamas. Et une condition, déjà, Ismaïl Haniyeh exige la libération des ministres issus du Hamas en prison en Israël depuis 2 mois. En Pologne, les réactions sont variées après l'interview de Günter Grass à la télévision allemande. Le prix Nobel allemand de littérature né en Pologne a révélé la semaine dernière son appartenance au Waffen-SS pendant quelques mois. L'écrivain de gauche pacifiste avouait sa honte sur cet événement de sa vie. L'ancien président polonais Lech Walesa lui a demandé de rendre les insignes de citoyen d'honneur de Gdansk, la ville où Günter Grass est né. A l'inverse, plusieurs grands éditorialistes polonais ont salué le pardon de l'écrivain allemand. À la Bourse de Paris, on retrouve Vincent Bezeau.
Eh bien Bilal, après 3 hausses consécutives, dont 2 spectaculaires, lui ayant permis à elle seule de progresser de 2,6%, le CAC 40 signe actuellement un modeste repli de 0,09% à 5110 points dans des volumes de 2 milliards d'euros. Les investisseurs affichent donc de nouveau un certain attentisme avant la publication à 14h30 des prix américains à la consommation. Hier, les prix à la production ont semblé confirmer l'apaisement outre-Atlantique des tensions inflationnistes du fait du ralentissement de la croissance aux États-Unis. Les boursiers espèrent que cette deuxième salve de statistiques confirmera la tendance. Sur le marché des changes, l'euro s'établit à 1,2785. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 626 $. Le CAC 40 se replie de 0,08% à 5110 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
France Inter, il est 14h04. Vous retrouvez Vladimir Cagnolari et Solo Soro pour leur Afrique enchantée.
Merci Bilal et à tout à l'heure pour des nouvelles nouvelles. D'ici là, nous, on va vous raconter l'histoire d'un mariage forcé.
C'est une histoire assez curieuse. Amélie n'avait jamais rien voulu savoir avec un blanc. Au bout de 15 ans de fidélité conjugale, elle a marché avec un nègre.
Comment, avec un nègre?
Oui, un petit porteur de parasol. Un cadeau de Louis XV amoureux. Sacré Louis XV.
Quoi, quoi, quoi? Hé, qui est là? C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah!
Vladimir Cagnolari. Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Comme tous les jours, nous vous convions à un voyage musical sur le continent africain. Et aujourd'hui, ce sera un voyage dans le temps puisque nous allons nous transporter au temps des colonies. Et en cours de route, dans le train de la colonisation, on aura tout le temps de regarder quelques clichés d'époque, mais qui ont toujours la vie dure. Tiens, par exemple, cette carte postale intitulée « Dancing indigène » ou « De bons sauvages s'ébrouent à demi-nu sur la terre battue ». Mais ce qu'on voit pas sur la photo, c'est que pour faire danser les sauvages, il n'y avait pas que la musique, il y avait aussi la chicotte. Et pour nous accompagner dans ce périple au temps béni, oui oui, des colonies, j'ai l'honneur d'être assis en face du gouverneur de l'empire des provinces réunifiées de l'ambiance. Je précise que c'est un empire dont on devient citoyen sur la base du volontariat et de la bonne humeur, bien sûr. Sure. Celui qui n'a pas besoin de fouet pour faire danser les ancêtres, qu'ils soient gaulois ou sénoufaux, j'ai nommé son excellence Solo Soro. Bonjour Solo.
Bonjour mon cher sujet.
Ça va?
On fait aller.
Bon Solo, je parlais de tes ancêtres gaulois et ses nouveaux, parce que si je me trompe pas, comme tu es né juste avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu as aussi des ancêtres gaulois.
Ah ben forcé, nos ancêtres gaulois sont toujours les plus beaux. Mais ce qui m'embête, c'est que au village, je veux dire au village gaulois, quand on leur fait des sacrifices, ils ne répondent plus. On dirait qu'ils n'aiment pas la bière de mire ou les coqs à crête rouge qu'on égorge quand on veut exaucer un vœu. Peut-être qu'ils préfèrent le coq au vin. Il faudrait que j'en parle aux anciens.
Ouais, ça c'est une idée, mais tu sais, moi, je crois savoir pourquoi ça marchait pas, la beau sacrifice aux ancêtres gaulois.
Mais alors,
c'est le coq, c'est bien le totem des Français, non?
Ouais, ouais.
Et vous mangez l'animal totem de vos ancêtres et vous croyez qu'ils vont vous le pardonner?
Ah, yeah.
Vous aussi, vraiment.
On va arranger ça.
À l'école ce jour-là, notre maître avait passé la matinée à nous raconter un épisode fort intéressant de la vie de nos ancêtres les Gaulois. Un régal. La tribu des Gaulois, dirigée par Vercingétorix, Gétorix, vivait dans la plaine. Quelques kilomètres plus loin, c'était le village des Romains. Son chef César possédait une longue vue magique qui lui permettait de voir le monde entier. Herveus l'ambitieux, croyant que c'était une caméra de télévision, se posa devant pour être vu. Écarte-toi de là, imbécile! Lui cria César qui scrutait l'horizon. Je veux savoir si ces sacrés Gaulois sont toujours là. Si les Gaulois avaient su, ne seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les blancs Gaulois, avaient été malins comme nous. César regarde dans la lunette et qu'est-ce qu'il voit? Là-bas, dans le lointain, Vercingétorix et ses hommes tiennent une palabre tribale. Les Gaulois sont toujours dans la plaine, dit César en souriant. C'est aujourd'hui que nous allons les capturer. Et toute la tribu romaine d'acquiescer. Oui, César, ave César!
C'est la foule qui crie sa joie.
Les Gaulois ne savent pas que César les voit dans sa longue vue magique. Tout doucement, ils continuent de fomenter leur petit complot contre les Romains. Voyant le danger qui les guette et emporté par le récit de notre maître, moi je crie aux Gaulois. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez à rester dans la plaine? Sauvez-vous, sauvez-vous tout de suite, sinon les Romains vont vous attraper. J'ai crié si fort que notre maître m'a puni pour bavardage intempestif pendant sa leçon. Tant pis, car moi je continue toujours de penser que
si les Gaulois avaient su, ils seraient pas restés dans la plaine. Si nos ancêtres, les bons Gaulois, avaient été malins comme nous, seraient doués un avion.
Avec la carte bleue, c'est facile.
Se serait taillé en Afrique, caché dans la forêt de Tarzan. Jusque César les aurait pas vus.
César et ses hommes arrivèrent comme une tornade à l'hivernage et capturèrent tous les Gaulois du premier au dernier. Je les avais pourtant prévenus.
Tu as raison.
Ils amenèrent toute la tribu gauloise en captivité dans un autre village. Il fallait voir ça. Vercingétorix prisonnier avec tous ses dignitaires. Bouillonix, Patientix, Andornix, Optimix, Negatorix, Pessimix et tant d'autres. Ce jour-là, c'était le ciel lui-même qui leur était tombé sur la tête. Aïe, aïe, aïe,
aïe, aïe, aïe.
Si les Gaulois avaient su, c'est pas resté dans la plaine. Si nos ancêtres, les bons Gaulois, avaient été malins comme nous, seraient loués un avion. Se serait taillé en Afrique,
avec Air Belgique une fois,
caché dans la forêt de Tarzan, jusque César les aurait pas vus. Si les Gaulois avaient su, seraient pas restés dans la plaine.
Mais qu'est-ce qu'ils foutaient donc dans la plaine, ces sacrés Gaulois?
Au lieu d'aller rapidement se cacher en Afrique.
Ils buvaient de la potion magique dans la plaine. Si les Gaulois avaient su, et c'est du Camerounais Francis Bébé sur France Inter.
Ouais, et c'est vrai que la leçon, c'est que à chacun son colon. Pour les Gaulois, ce furent les Romains, et pour vous, par exemple, en Côte d'Ivoire, bah, ce furent les Gaulois, enfin les Français.
Voilà, ce sont les Français. Mais je crois qu'avant les Français, il y a eu un petit passage des Espagnols. Mais ce sont les Français qui s'y sont installés définitivement. Et la première capitale sur le littoral, c'était la ville de Grand Bassam. Ensuite, je crois, à cause du paludisme, ils sont allés un peu plus loin, à Benjerville, où l'air semblait plus sec, où il y avait moins de marécages. Et là encore, épidémie de fièvre jaune, ils sont venus s'installer sur le site d'Abidjan, toujours sur le littoral. Et ce n'est qu'en 1985 que le maire de la ville d'Abidjan propose au défunt président Félix Houphouët-Boigny de transformer Yamoussoukro, son village natal, en capitale politique. Et aujourd'hui, c'est Abidjan qui reste la capitale économique de la Côte d'Ivoire.
Et en tout cas, pour chaque territoire, il y a eu la naissance ou la construction d'une grande ville où siégeait l'administration de la colonie. Souvent, c'était un port, puisque l'objectif premier, c'était quand même de faire sortir les matières premières qui sortaient de ces colonies. Et ces villes coloniales, elles ont souvent un visage, une structure similaire, en tout cas, pour les colonies d'Afrique francophone.
Ah ouais, tout à fait. Quand on voit une capitale comme Abidjan, elle est presque identique à toutes celles de toutes les villes coloniales d'Afrique. Tu as au centre le plateau, je parle d'Abidjan, c'est le quartier administratif où habitaient les Blancs et les grands commerces, les grandes administrations. Au sud d'Abidjan, On a 13 villes qui jouxtent justement le port. Et c'est le quartier des indigènes dit évolué. Au nord de, du plateau, donc du quartier des colons, c'est Adjamé, la porte d'entrée de l'arrière-pays. C'est le quartier des broussards, ou si tu préfères, les provinciaux qui venaient s'agglutiner à la périphérie, souvent en reproduisant, bien entendu, leur habitat traditionnel. Et avant les indépendances, tard la nuit, on ne traversait pas si facilement le quartier des colons, c'est-à-dire le plateau. Il fallait avoir une bonne raison. Soit on est personnel de maison, soit on est chauffeur, livreur. Enfin, il fallait avoir une bonne raison pour être au plateau tard la nuit. Sinon, on subissait systématiquement des contrôles d'identité dans ce quartier dit colonial.
Oui, justement, tu as parlé des indigènes évolués qui habitaient pour Abidjan le quartier de Trècheville. Les indigènes évolués, c'était qui même?
Ah d'accord, ouais. Enfin, ce sont les fonctionnaires noirs qui savent lire et écrire français et qui sont dans les services publics. Ceux-là qui parlaient français, c'était les indigènes évolués.
Selon, on va remonter un peu plus vers le nord, à Saint-Louis du Sénégal, c'est au bord de la mer, à l'embouchure du fleuve Sénégal. Et pour être plus précis, le centre historique de la ville flotte sur un bras du fleuve. Le centre, il est protégé de la mer par une portion de terre qu'on appelle la langue de Barbarie. Et les premiers colons se sont donc installés sur cette île qu'ils ont baptisée l'île Saint-Louis. Et oui, comme quoi les Parisiens n'ont pas le monopole de ce nom-là. Et Saint-Louis, c'est une ville qui va jouer un rôle très important puisque ce sera la première capitale de la colonie du Sénégal et même la première capitale de l'Afrique occidentale française, hein, qui est l'Afrique occidentale française qui regroupait toutes les colonies d'Afrique de l'Ouest. Et la cohabitation avec les colons qui administraient la ville et se promenaient en calèche, nous aussi d'ailleurs on y va en calèche là en ce moment, et ben évidemment elle n'était pas toute simple et ça se manifestait jusque dans les moindres détails de l'urbanisme et aussi du contrôle des décibels. Et ça a donné lieu, faut bien le dire, à d'épiques batailles de clochers.
Quand on a fait le plan d'urbanisation de la ville de Saint-Louis en 1824, un an après, 1825, la communauté musulmane s'est dit, mais écoutez, si on ne fait pas vite, tout l'espace risque d'être occupé et on risque de ne pas avoir de lieu de culte sur cette île. Alors très vite, ils ont fait une expression de besoin auprès de l'administrateur colonial. Ils lui ont dit, écoutez, nous voudrions bien avoir un lieu de culte sur cette île. Dans un premier temps, on aura servi un niet catégorique. Mais non, ça ne saurait être possible parce que vous allez nous tarabisser les oreilles avec vos appels à la prière à n'en point finir. Mais, à force de réunions avortées, reconvoquées, de concessions des uns et des autres, on a fini par leur dire, mais écoutez, il n'y a pas de problème, vous pourrez avoir un lieu de culte sur cette île, mais il ne saurait être en ville. Il sera hors de la ville. Alors, quand ils ont terminé, on leur a dit, on est désolé, si vous voulez utiliser votre mosquée, il faudra que vous acceptiez d'y à poser une cloche. C'est la seule mosquée au monde à avoir une cloche.
Ah, pour l'appel à la prière.
Mais, par le passé, c'était le cas. Pour l'appel à la prière. Mais vous imaginez quelle fut la réaction de ces musulmans. C'était un choc terrible. Ils ont failli tomber à la renverse s'ils ne l'ont pas fait. On est musulmans, on vous le rappelle. C'est, on ne voit pas utiliser quand même une cloche pour appeler à la prière. Mais, c'est à prendre ou à laisser, leur avait-on dit. Mais très opportunistes, ils ont pris avec derrière la tête l'idée de voler la cloche. Et par deux fois on l'a volé, par deux fois on a fait une bâtie, on l'a recherché, on l'a retrouvé et on l'a remise à sa place. Et donc, pourquoi tout cela? Parce que précisément, les Français à l'époque, ils avaient une sorte d'organisation, mais méthodique, bon peut-être qu'encore aujourd'hui ils l'ont. Tu sais, donc ils ne voulaient pas du tout être dérangés entre 13h et 14h. Sous aucun prétexte, il ne fallait déranger la sieste des Français à cette heure-là. Il était fait interdiction sur l'île de Saint-Louis d'avoir des moutons et des chèvres qui bêlaient entre 13h et 14h.
Il fallait les programmer
différemment. Il fallait les programmer. Enfin, une belle manière de leur dire n'en élevez pas sur l'île. Il était fait interdiction aux femmes qui avaient des enfants de laisser les enfants pleurer entre 13h et 14h. Scotchez-les, droguez-les, chloroformez-les ou allez vous mettre là-bas au rein et revenez plus tard. Comme disait l'autre Aimé Césaire, que je n'entende ni les rires ni les cris, mais j'y ai fixé sur cette île que je prophétise belle. Voici ce qu'il voulait faire un peu de l'île de Saint-Louis. Il était aussi fait interdiction aux femmes qui pilaient le mille, de piler le mille entre 13h et 14h. Donc, silence absolu entre 13h et 14h vers de la sieste. Alors, jusqu'à ce qu'un gouverneur du nom de Bruyère de Lille arrive ici, on lui demande son arbitrage, il dit, mais écoutez, parce que l'heure de prière qui pose problème quand même, c'est l'heure de 14h. C'est quand la prière de 14h chez vous les musulmans? On lui a dit c'est entre 13h30 et 14h30. Il dit écoutez, on va être intelligent, on coupe la poire en deux. On l'a fait à 14h15 et les autres auront fini leur sieste. partir d'ici, d'un consensus colonial ici à l'époque, ça s'est généralisé partout au Sénégal. C'est resté encore aujourd'hui d'actualité, sauf bien sûr dans certaines mosquées très orthodoxes qui disent que, écoutez, ça, ce n'est qu'un legs colonial, il ne faut pas s'en embarrasser, il faut plutôt s'en débarrasser. Et effectivement, depuis, la plupart des mosquées continuent de prier à 14h15, mais quelques rares mosquées orthodoxes quand même continuent de prier un peu plus tôt, vers 13h30 ou vers 14h.
Et ça, c'était Mamadou Diallo, historien et guide de la ville de Saint-Louis. Alors, Solo, la colonisation, c'était pas qu'une affaire de querelles d'horaires, de clochers ou de chèvres qui bêlent à la mauvaise heure, à l'heure de la sieste, mais elle se drapait bien sûr dans les atours de la civilisation. En fait, l'objectif premier, et c'était vrai pour les prêtres comme pour les colons, c'était de dénégrifier l'Africain. On peut dire ça?
Ah ouais, ça, on peut dire ça, exactement. Je crois que le colonisateur et les prêtres avec ont débarqué sur le continent avec leur dieu et leur modèle de société. Ils nous ont appris, en tout cas, c'était avec d'un soin méticuleux, ils nous ont appris à mépriser tout de nous-mêmes, y compris nos créations artistiques. Mais ironie du sort, les œuvres africaines bénéficient aujourd'hui d'un beau musée tout entier, à lui tout seul, où elles sont magnifiées à Paris, sur le Quai Branly.
C'est pas le moindre des paradoxes, l'art des fameux sauvages. En tout cas, il y en a un qui l'assume bien, c'est Alfred Panou, qui l'assume bien le fait d'être sauvage. Et Alfred Panou, dont vous connaissez peut-être la chanson « Je suis un sauvage ».
Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rangez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truquez tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester
vaut mieux nager. Je ne veux pas monter ou dégringoler, et je préfère rester pour me marrer.
Je suis un sauvage. Alfred Panou avec les Jazzmen américains de l'Art Ensemble of Chicago.
Et solo pour la petite histoire, au tout début de la chanson, je ne sais pas si tu as entendu, il chante dans une des langues africaines. Il se trouve que c'est du Mina, c'est une des langues qu'on parle au Togo. Et il crie « Bandit, voyou !» Et en tout cas, c'est ce que nous a dit notre jeune stagiaire Tiffaine Lawson, qui est d'origine togolaise, et qui a vérifié auprès de son papa que l'on salue au passage. Bon, il y a une chose qu'on oublie souvent quand même, c'est que dans les colonies, l'esclavage était bien sûr aboli. Pour l'Empire français, c'était en 1848. Mais à la place de l'esclavage, il y avait quand même les travaux forcés.
Ah là là, ouais, l'abolition de l'esclavage avait peut-être du sens dans certaines parties du monde. Mais chez nous, en tout cas, en Côte d'Ivoire, le maintien des travaux forcés, et même si ce n'était pas présenté comme de l'esclavage, mais ça lui ressemblait curieusement. Ma grand-mère m'a raconté que pour la construction des infrastructures routières qui traversaient le pays, par exemple, l'administration coloniale réquisitionnait les populations de tous les villages que traversait une piste, par exemple, pour défricher la voie, abattre les arbres, gratter les herbes, les mauvaises herbes, ensuite la remblayer avant de damer avec des planches de bois courbées, à taper,
le sol avec les planches
de bois pour damer. Et bien entendu, les individus n'étaient pas rétribués. Et tout au plus, on donnait quelques pacotilles aux chefs des villages d'origine de tous ces travailleurs. Et pour les colons qui exploitaient les forêts ou les plantations privées de café cacao, c'est la même administration coloniale qui leur fournissait la main-d'œuvre gratuite. Oui. Aujourd'hui, à Poka, il y a un arbre qui est devenu un lieu sacré.
Poka, c'est ton village.
C'est mon village.
Voilà. Depuis le début de l'été.
Voilà. On ne peut pas cultiver à cet endroit parce que c'est là où on rassemblait la population. Et le garde, accompagné de l'administrateur colonial, jetait une brindille. Et pour être certain que les gens étaient bien entassés, la brindille ne devrait pas tomber. Elle devait rester accrochée sur les têtes. Oui. Ah oui, oui, ce lieu existe encore aujourd'hui à Poka. Et bien entendu, tous ces gens étaient livrés gracieusement à l'administration coloniale. Et par exemple, quelqu'un comme mon beau-père, chaque fois qu'il a évoqué le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, il se tournait et retirait sa chemise et nous montrait des traces laissées par les fouets des gardiens à l'occasion des travaux forcés, parce qu'il est descendu plusieurs fois, tirait les billes de bois à la main, qu'on mettait on jetait à la lagune, qui les transportait, qui les drainait jusqu'au port d'embarquement des essences de bois. Et il nous montrait ces marques, bien entendu, pour montrer que c'était chaud.
Là, tu parlais de la route, mais ça a été aussi pareil pour le train.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Monet défie outrage, l'œuvre de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, s'inspire de la construction du chemin de fer qui était prévu pour relier Abidjan à Niamey, la capitale du Niger, dont on a appelé la régie RAN, la régie Abidjan-Niger. Donc pour la construction de ce chemin de fer, de la ligne de chemin de fer, on a promis, l'administration coloniale a promis au chef coutumier des Senoufo, Gon Koulibaly de Korogo, que le train passerait par son village. Mmh. C'était pour l'inciter à offrir gracieusement une main-d'œuvre abondante. Et il offrait la main-d'œuvre. Et à cause des maladies, du mauvais traitement et des accidents du travail, une grande partie de la main-d'œuvre mourait. On lui en redemandait. Et lui, il en redonnait. En même temps, il faisait des sacrifices, des bœufs entiers qui étaient sacrifiés sur le mont Korogo, une colline à proximité d'un village, pour arrêter la mort des travailleurs et pour favoriser le passage du train à Korogo. Et malheureusement, le train est passé qu'à 55 km de Korogo, dans la ville qu'on appelle Ferke.
Et c'est précisément ce train qu'on entend en ce moment et qui relie Ouagadougou, l'actuelle capitale du Burkina Faso, à Abidjan. Oui, il a été jusqu'à Ouagadougou, hein, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas pu aller jusqu'au Niger.
Ça s'est arrêté là.
Et donc, par contre, il traverse toute la Côte d'Ivoire, donc les travaux forcés pour la main d'œuvre, là par exemple pour le train. Mais de l'autre côté, en plus des travaux forcés, il y avait aussi de quoi financer les matériaux de construction qu'on prélevait directement sur les populations, à savoir par l'impôt.
Et financer les constructions et aussi les salaires peut-être de l'administration coloniale. Et cet impôt par tête d'habitant posait de gros problèmes quand même aux populations qui vivaient plutôt dans une économie non monétarisée. Donc il y avait énormément de difficultés à trouver l'argent en espèces pour payer cet impôt. Donc ça amenait les populations à des villages, à délaisser leurs terres pour aller à la ville, s'y installer, pour gagner de l'espèce, afin de payer l'impôt de leurs parents restés au village. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut déduire que l'impôt colonial est certainement l'une des premières causes de l'exode rural.
Qui l'a fait démarrer, en fait, parce que c'est vrai qu'on a eu le même cas de figure en Afrique du Sud, par exemple, où les mines ont attiré énormément de gens qui, eux aussi, avaient cette nécessité de payer l'impôt. En tout cas, le grand public, à l'époque et même aujourd'hui, est assez peu au courant de tout ce que tu viens de raconter. C'est vrai qu'on n'enseigne pas, par exemple, en tout cas tel quel, à l'école. Et c'est vrai qu'en France, dans la première moitié de ce siècle, enfin non, du siècle précédent, du 20e donc, on a développé toute une imagerie et tout un marketing presque pour promouvoir les colonies et la mission civilisatrice de la France. Donc il y a les expositions coloniales et les zoos humains où l'on montre, par exemple, au jardin d'acclimatation de Paris, un village somali reconstitué avec une vraie famille somali, ou bien les terribles Ashanti du Ghana. Et c'est vrai que les affiches, quand tu les vois, elles sont impressionnantes parce qu'elles font penser vraiment à des films grand spectacle. Et toute cette imagerie, elle est décortiquée par Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, qui sont deux chercheurs qui signent justement ce mois-ci un article sur cette question dans l'excellente revue Africulture, qui est consacrée à l'esclavage. Bref, l'important, c'est surtout, avec tout ce marketing, de ne pas mettre en doute la nécessité d'apporter le progrès et les lumières conjointes de la religion et de la science à ces indigents indigènes, quitte à bien les martyriser pour qu'ils comprennent. Et ça, c'était la méthode coloniale.
Ah oui, et cette méthode coloniale, ça me rappelle cet auditeur parisien qui a dû écouter l'Afrique enchantée et qui nous a écrit que l'Afrique enchantée colonisait les ondes. Mais franchement, si nous on colonise, c'est plutôt la méthode douce, non?
Elle. Et si le poste nègre, nous émettons depuis Paris, la capitale de notre colonie, la France.
Voilà, je doute que l'auditeur auquel tu fais allusion nous écoute encore, mais c'est quand même pour lui qu'on a fait ce jingle, et c'est aussi à lui qu'on dédie le morceau qui suit. Il a été composé par Charlus et repris par Michel Simon au milieu des années 30. Ça s'appelle « Un amour en noir et blanc ».
Mon arrière-grand-maman n'avait pas de tempérament, et bien qu'elle fût très belle, elle était fidèle. Pas une fois elle ne trompa mon arrière-grand-papa, oui c'était une vertu, comme on n'en voit plus. Mais depuis la du Barry, la grande mode à Paris était d'avoir un petit nègre de Tahiti. Droit Louis XV, très galant, quand vint le jour de l'an, on offrit un aussi à Amélie. C'était un petit négro cousquet rigolo, il avait dit l'histoire de jolies dents blanches dans une bouche toute noire. Quand Amélie recevait, c'est lui qui servait, et le joli négrillon passait les bonbons en disant aux gens, y a bon.
Mais dites donc, elle est banale, votre histoire.
Oui, mais attendez, c'est pas fini. Oui, mais un soir qu'Amélie allait pour se mettre au lit, en retirant sa chemise, elle vit surprise, au milieu de ses draps blancs, le petit nègre tremblant, qui lui dit, moi, y en a froid, toi, réchauffez-moi. Elle entra, vous pouvez le croire, dans une colère noire, mais sa colère finit, elle entra dans le lit. N'ayant pas le cœur inhumain, elle réchauffa le gamin. Vous devinez après ça, ce qui se passa. Amélie et son négro firent méli-mélo. Elle passa dit l'histoire des tas de nuits blanches près de sa passion noire. Elle acquit en peu de temps du tempérament.
déchiffrant le jargon de son étrillon, elle criait dans le noir, y'a bon.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres fussent poliées, au nom de textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, cruel et inhumaine pour les autres. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais Dieu de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains.
Voilà, ça c'était Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. Et il n'a été que pendant quelques mois, pendant l'été 1960, avant d'être assassiné avec un bon coup de pouce, ou plutôt un bon coup de couteau de la Belgique et de la CIA, sans oublier bien sûr la bénédiction des autres ex-puissances coloniales qui voyaient évidemment d'un mauvais œil un jeune dirigeant africain leur tenir un tel discours, surtout le jour de l'indépendance du pays. Quelle ingratitude!
Ben ouais, c'est ça le problème avec les Africains évolués. On leur donne un doigt et ils veulent le bras. Ben nous, on rigole pas avec ça, hop! À la morgue.
Et justement, Lumumba n'exagérait pas d'un pouce parce que la colonisation belge, elle, a été d'une violence rare. Et là, je suis obligé de m'arrêter un instant pour vous parler d'un livre qui est sorti pour la première fois en Angleterre en 1909, signé par Sir Arthur Conan Doyle. Mais pour le coup, il s'agit pas d'une histoire dont Sherlock Holmes serait le héros. Non, le triste héros, c'est Léopold II, roi des Belges et détenteur en son nom propre de l'état dit indépendant du Congo, 80 fois plus vaste que son royaume. Et au Congo, l'idée, c'était pas tant de développer, ni même de civiliser, non, c'était d'exploiter. En l'occurrence, le caoutchouc naturel, qui était alors en pleine vogue, notamment pour les besoins des pneumatiques dans l'industrie automobile, qui est en plein démarrage. Et comme l'écrit Doyle, une meilleure compréhension des choses a montré la sottise des vieilles méthodes quand il est si aisé d'asservir l'esclave dans son propre foyer. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe au Congo. Les villages congolais sont obligés de payer un impôt sous forme de caoutchouc, qui existe à l'état naturel dans les forêts du Congo, et dont on extrait la sève. Mais si la quantité réclamée n'était pas fournie, eh ben c'est pas compliqué, on rasait le village. Donc dans le Congo de cette époque-là, on fouette et on tue sans problème pour montrer l'exemple et faire que les autres rapportent les bonnes quantités de caoutchouc. Et donc les supplétifs indigènes qui sont chargés de faire la tournée des villages doivent, eux par exemple, justifier l'utilisation de leurs cartouches. Donc pour chaque cartouche utilisée, une main coupée doit être rapportée. Donc il existe encore des photos macabres où l'on voit ces paniers remplis de mains. Et bref, on évalue une dizaine de millions le nombre de Congolais qui sont morts pour le caoutchouc, soit environ la moitié de la population du Congo d'alors. Mais en Belgique, tout va bien, puisque la compagnie, et là je cite encore Sir Arthur Conan Doyle, la compagnie donc versa 200% d'intérêt aux actionnaires, alors que donc pour les Congolais, c'est l'enfer sur terre, au point que certains regrettent même l'esclavage, le vrai, l'officiel. Et en fait, ce livre hein, qui s'appelle... Le crime du Congo belge et qui est paru en France aux éditions Numéro Rouge il y a quelques mois, Ce livre donc, il reprend les thèses de la Congo Reform Association, qui militait à l'époque, au début du siècle, pour dénoncer les abus des colons au Congo. Et pourtant, on ne peut pas dire de Doyle qu'il était un fervent anticolonialiste, il était même plutôt conservateur, et comme la plupart de ses contemporains, il soutenait, enfin en tout cas, il ne remettait pas en cause le principe de la colonisation, mais là, vraiment, ça allait trop loin, parce que plus personne ne pouvait croire au, je cite encore, « développement moral et matériel des indigènes auxquels s'étaient engagées les puissances européennes, qui s'étaient partagées l'Afrique au moment de la conférence de Berlin en 1885 ». Bref, pour finir là-dessus, et comme l'écrit le fameux Lord anglais, le gouvernement d'une colonie tropicale est un révélateur du développement atteint par la nation qui essaye de l'exercer. Et là-dessus, les Belges n'avaient pas le monopole, puisqu'il y a eu les massacres des indépendantistes Mao-Mao par les Anglais au Kenya, le génocide, oui, le mot est pesé, le génocide de la population Herero de Namibie par les Allemands, les massacres français au Cameroun et dans le Congo français. Et, mais qui est civilisé ici?
C'est une histoire de fou, ça.
Parce que, au tournant des années 60, la plupart des colonies acquièrent les dites indépendances, mais pas toutes.
Ouais, parce que donc effectivement une grande partie, mais pas l'Afrique du Sud, par exemple, dont tout l'arsenal législatif ségrégationniste s'est mis en place juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique du Sud, qui a aussi la tutelle après les Allemands de ce qu'on appelait le Sud-Ouest africain d'alors et qui s'appelle aujourd'hui la Namibie.
Bien sûr, et puis les colonies portugaises comme l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau ou le Cap-Vert qui engagent une guerre de libération contre la métropole. Et ce sont des guerres qui vont durer des années et des années, en tout cas pour la plupart, au moins 15 ans de guerre.
Et qui vont aboutir à l'indépendance quand le régime du dictateur portugais Salazar va tomber sous le coup de la révolution des œillets en 74. On l'a appelé comme ça, cette révolution, parce que la population offrait aux soldats des œillets des soldats qui justement s'étaient révoltés parce qu'ils ne voulaient plus aller combattre dans ces guerres coloniales sans issue. Mmh. Et donc la junte qui prend le pouvoir en 74 propose aussitôt un cessez-le-feu au mouvement nationaliste du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert et de l'Angola. Et le chanteur Bonga est justement né en Angola à l'époque coloniale, il était donc citoyen portugais. Il avait même droit à de la considération, parce que quand on vient de l'Empire et quand on est bon en sport, eh ben, on a droit à certains égards. Et Bonga justement était devenu champion du Portugal du 400 mètres, s'il vous plaît. Alors il aurait pu être un citoyen modèle, mais après la course à pied, quand il avait fini, il s'activait dans les cercles angolais de Lisbonne qui soutenaient la lutte au pays. Et c'est pour ça qu'il a dû fuir la PIDE, la police politique du Portugal, et qu'il s'est retrouvé à Lisbonne, où il a enregistré cette chanson. Et oui, parce qu'il ne savait pas que courir, l'homme savait aussi chanter.
À l'époque, on est comme tout le colonialisme, ils ne sont pas venus pour nous donner la religion, le bonheur, etc., la démocratie, la paix, etc. Au contraire, donc les souvenirs que nous avons, moi étant enfant, il fallait qu'on soit, on se serre les coudes, n'est-ce pas, pour préserver quand même notre identité culturelle. Alors moi j'ai fait partie de tous ces jeunes, tu vois, et adolescents qui ont pu quand même suivre un peu les grands-parents qui nous ont appris à être, n'est-ce pas, africains de l'Angola. La connaissance des instruments typiques, la connaissance de notre philosophie propre, n'est-ce pas? Parce que les colonialistes ne faisaient pas la promotion de tout ça. Ou alors quand ils faisaient, c'était d'un aspect un peu exotique, pittoresque, machin, etc. Donc ça ne concernait pas directement. Et bien voilà, à cause de ça que je suis devenu qui je suis, exactement.
Justement, les grands-parents, puisque vous parlez d'eux, qui vous transmettaient cette africanité, cette angolanité,
ouais.
Comment ils le faisaient? Parce que si je dis pas de bêtises, à l'époque, les colons voulait justement raser tout ça, faire que ça se transmette pas.
D'accord, et nous intégrer. Et nous intégrer pour qu'on devienne européen.
Et qu'est-ce que c'était, l'angolanité?
C'est déjà une manière d'être, c'est avoir sa philosophie propre, c'est avoir sa manière de manger, c'est avoir ses coutumes, ses costumes, sa manière, tout. Enfin, il y a l'éducation même, n'est-ce pas? Les exemples des uns des autres, par exemple, la manière d'exister, pas imiter. Par exemple, en Europe, on laisse tomber les vieux, on les met dans les maisons de retraite, machin, etc. Nous, non, on vit avec eux. Sont chez nous à la maison, et en plus c'est comme une espèce d'encyclopédie qui nous enseigne, qui nous apprend des choses. Nous sommes comme ça par nature, donc c'est plutôt chercher ce que nous sommes effectivement. Alors les vieux ont beaucoup de choses à dire.
Alouké, nous galofois, gamou bingi jazé,
Mwene wato kala benyaba Emengondo yanye Namona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Katika mwena Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Ngangumba Aluke nungola fwa Gamu bingi kiaze Mwenye wando kala benyaba Emengondo yanye Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye Ngangumba Mona mona mwenye Suya weza Mona mona mwenye
Il n'y a pas d'Africains qui n'ont pas eu cette révolte, tu vois, du lendemain et de dire, écoute, moi, il faut que je sois moi-même, il faut que je sois les miens, comme font tout un chacun. À n'importe quel pays, on veut suivre les siens, on veut avoir son histoire, on veut raconter sa réalité, et en plus, il y a autre chose, les démarches que j'ai fait, c'est que nous avions nos philosophes, nous, attention.
Et les philosophes dont parle Bonga, ce ne sont pas forcément des universitaires, mais justement des anciens, des maîtres du conte, ou des maîtres de musique, comme Liceu Vieira Dias, le fondateur du groupe Ngola Ritmos, qui dans les années 40 déjà arpentait les quartiers indigènes de la capitale de l'Angola, Luanda, et qui a contribué à perpétuer chez les Angolais le goût de leur rythme et de leurs instruments.
Et Molanginki. Il faut, tu m'as appris à prononcer ça et à l'articuler. Mona Kingishika.
Ah, tu es trop fort.
Et c'est de l'angolais Bonga sur France Inter. Et cette chanson, que vous avez déjà entendue certainement, raconte l'amour contrarié de l'exil. Et elle a été enregistrée en 1972 à Rotterdam, 2 ans avant l'indépendance de l'Angola. Et elle dit en résumé, la fille que je laisse au pays, moi qui suis parti, que va-t-elle devenir ?
Elle a voyagé cette chanson jusqu'à Luanda, la capitale, grâce à des marins capverdiens qui étaient solidaires des autres luttes de libération d'Afrique lusophone. Et il y a dans les chansons de Bonga des paroles qui encouragent ceux qui étaient restés au pays et qui résistaient. Et puis par leur forme même, qui incorpore souvent des instruments traditionnels qui appartiennent aux Africains d'Angola, par la langue aussi, puisque là par exemple c'est une chanson qui chantait en Kimbundu, qui est une des langues nationales de l'Angola, mais qui était évidemment bannie au temps des Portugais. Donc que tout ça soit mis sur la place publique à travers des chansons était en soi une revendication. Et Bonga a eu beau passer une bonne partie de sa vie en exil, oui, parce qu'après l'indépendance en 75 a commencé la très très longue guerre civile angolaise, mais il se souvient encore de son enfance et des rapports de la population avec l'administration coloniale.
Era o poeira do posto, poeira na rua, pra nos guardar. Vento era empoeirado, ventava os cubicos, nos empobrecer. Poeira com impureza sempre levantou e nos confocou. Roda, sai do rodopio e o chefe do posto vai te sangular. Lembro, eu era canuco, fugia da cerca pra salvaguardar. Me lembro toda essa desgraça, negros transpirados da rusga fugir. Vento centavos cúbicos nos empobrecer. Poeira com impureza sempre levantou e nos bofocou. Roda, sai do rodopio que o chefe do posto vai te zangular.
Poeira, c'est un souvenir très douloureux pour nous parce que ça rappelle quand même à l'époque coloniale, n'est-ce pas? Alors nous étions enfants et nous avons assisté, n'est-ce pas, de cette manière de traiter un peuple alors qu'ils étaient des étrangers. C'était à l'époque coloniale, bien sûr, et à chaque fois qu'on parle de Poeira, ça veut dire que c'est le type de l'administration civile répressive qui a merdé tout le monde.
Poeira, c'est le nom du colon.
Oui, du colon, oui, qui participait à l'administration coloniale de l'époque.
Ça raconte précisément la chanson « Une rafle ». À laquelle tu as assisté?
Oui, oui, absolument. Avec tous les enfants en Afrique. Aïe, aïe, la Poeira. Poeira, bon, vous savez, c'est quand on a une situation vécue, n'est-ce pas? On raconte exactement, ou alors par des poèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a été ce vécu-là atroce, tu vois, d'une jeunesse qui ne s'attendait pas à ça. Déjà qu'il y a des problèmes dans la maison même parce que bon, tu n'as pas le fromage, tu vois, tu n'as pas le bon poisson, tu n'as pas la bonne viande, tu n'as pas du lait, tu n'as pas ceci, cela. Donc une matière de première besoin. Et alors tu vois, en plus de ça, tu vois une situation qui te traumatise quotidiennement. Et ce traumatisme-là, c'est en plus fait par un étranger qui est venu chez toi avec la croix pour te bénir, pour mieux rentrer chez toi dans le cœur de ta pensée, dans le cœur de ton physique, dans ton esprit, etc. Et en plus de ça, tu vois, il te tabasse. Pour ne pas devenir fou, il faut résister. Certains résistent en chantant, d'autres résistent en donnant des coups de poing par-ci, par-là, etc. Et il y a d'autres qui deviennent fous. Qui sont quand même similaires à ces Poeira dans le temps. Ils sont blacks. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Donc il faut continuer dans cette voie-là, la voie de Fela, n'est-ce pas? La voie de pas mal d'artistes africains qui ont dit de soi-même, n'est-ce pas? Pour qu'on aille la dignité qu'on mérite. Quoi. Et là, il faut s'imposer, il faut dire des choses en chantant. En chantant, ça fait du mal à personne.
Lembro, eu era canuco. Fugia da cerca pra salvaguardar. Me lembro toda essa desgraça, negros transpirados da rusga fugir. Ai ué, ai ué, ai ué, ai ué.
Sur France Inter, on était toujours en compagnie de l'Angolais Bonga qui nous a chanté Poeira.
Solo, au moment du référendum de 1958 organisé par De Gaulle qui proposait aux colonies françaises de demeurer dans ce qu'on appelait la communauté française, qui est une façon de continuer à associer la France à la direction du destin de ses colonies, ce qui signifiait qu'il ne serait pas tout à fait indépendant. Finalement, à ce référendum, bien peu de pays ont dit non.
Pourquoi si peu on dit non? C'est la grande question que les Africains de ma génération continuent de se poser encore aujourd'hui. À mon sens, la plupart des leaders africains avaient subi un tel lavage de cerveau que leurs gènes avaient intégré le modèle français qui les fascinait. Et ces leaders s'étaient alliés à des Français de gauche ou de droite selon leurs convictions idéologiques. Et leurs partenaires composaient le lot de conseillers qui psychologiquement les conditionnaient pas mal quant à rester intimement liés, voire inféodés à la France.
Oui, c'est vrai que, en tout cas, justement, il y a un truc qu'on a dit très souvent à ce moment-là, c'était que
l'Afrique n'était pas forcément prête à une transition si rapide et qu'on aurait dû mieux l'accompagner. Il y a eu beaucoup de gens qui disent ça d'ailleurs, que ce soit en France ou même sur le continent, les Africains aussi, parfois on dit ça.
Oui, l'argument récurrent soutient que l'on n'a pas préparé un nombre suffisant de cadres africains pour assurer la relève coloniale. Mais il y a certainement d'autres explications. Parce que force est de constater que les ex-puissances coloniales n'étaient pas non plus animées d'un enthousiasme débordant quant à quitter les colonies. Et résultat des courses, tous les conseillers techniques ou politiques de nos présidents, c'était d'anciens colons. Rien dans l'administration, ou presque, n'était pensé par et pour des Africains. L'exemple de la Côte d'Ivoire est édifiant. Le président Houphouët Boigny est certainement l'un de ceux qui ont le mieux assuré la formation des cadres pour la relève. Il a envoyé en France des dizaines et des dizaines d'Ivoiriens en formation pour assurer la relève de l'administration coloniale. Et cette génération, on l'avait appelée même la génération 45. Mais au retour de tous ces cadres formés, aux côtés de l'administration coloniale des anciens colons, ils ont pensé un modèle de développement technique et d'organisation sociale ce qu'ils ont mis en place, c'était pensé selon les critères occidentaux. Et ils ont continué à développer, par exemple, les cultures de rente telles que le café, le cacao, que les Ivoiriens ne mangent pas. Ça, c'était pour l'Occident. Et on n'a pas développé la production du riz, enfin, des cultures vivrières, quoi.
Oui, évidemment, quand les cours du café, du cacao se sont effondrés, puisqu'ils étaient destinés aux marchés occidentaux, eh ben, ça a foutu par terre les économies aussi de pays comme la Côte d'Ivoire, pourtant cité comme modèle. Alors, tu sais que, en février 2005, il y a eu une fameuse loi sur les aspects positifs de la colonisation, dont l'article qui justement faisait référence à ça a été abrogé. Je voudrais qu'on écoute le réunionnais Davy Sicard sur cette question.
J'entendais les quelques débats qui avaient eu lieu. Pourtant, effectivement, je n'ai pas connu cette période personnellement, mais ça me remuait comme jamais avant. J'ai ressenti le besoin d'écrire quelque chose, de sortir ce que je ressentais, parce que c'était vraiment de la colère. Parler des bienfaits de la colonisation, pour moi, c'est un sujet déplacé. Je pense pas qu'on doive parler de ça. Voilà. Donc, c'est une prière, tout simplement, adressée à la France, ou en tout cas à ses valeurs. Voilà, parce que ce sont des valeurs universelles. Voilà. Cette question ne doit pas être posée comme ça. La colonisation et ses bienfaits, non, c'est pas possible. On ne peut pas voir ça comme ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, je t'ai fait du mal, mais c'est pour ton bien. Voilà, c'est pas possible. Donc, je t'ai fait du mal, c'est bon, ok. Je m'excuse, pardon, et on oublie, voilà. On ne peut pas dire, écoute, je t'ai fait du mal, ok, d'accord. Mais ça t'a rendu service, si t'as réussi, c'est grâce à moi. Tu vois? Donc non, merci. C'est juste qu'il y a des passages qui sont un peu sombres et qui, au lieu d'en parler comme on fait actuellement, il suffit de les mettre en lumière, de dire ok, c'est bon, et on passe à autre chose. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien de garder des passages sombres de l'histoire dans un coin, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont souffrir par rapport à ça.
Serais-tu liberté si, comme tant d'autres, mes pères n'avaient osé faire couler jusqu'à leur sang pour toi naguère, et même donner leur vie, leur âme pour que tu sois aujourd'hui tout ce que tu es. Serais-tu liberté, pas juste en train de me dire que toutes ces choses du passé n'ont plus aucun avenir, qu'il ne sert plus à présent à rien de vouloir se battre encore au nom de tout ce que tu es. Aurais-tu liberté, me regarder dans les yeux, me dire qu'il me faut.
liberté, peut-être mieux que toi-même. Tu fais mine d'oublier, tout semble blanc comme neige. Mais je sais que résonne encore, tout au fond de toi, les pas de tous ces braves qui pour toi sonnèrent le glas. Armés de leur sabre, galets, pioche, fusil. Aujourd'hui c'est avec la plume que je porte leur cri. Liberté! Ils t'appellent, écoute, ça vient du cœur. Ils sont fiers comme je suis de porter tes couleurs. Tu sais pertinemment comme moi qu'il reste bien des batailles à livrer, mais peut-être ne te sens-tu plus de taille. Aïe! Regarde bien dans les recoins de notre histoire, il y a encore des passages qui demeurent dans le noir. C'est une honte, ceux qui vivent méritent mieux. En les mettant au grand jour, tu leur permettrais de vivre heureux. Et si nous rappelions ensemble égalité, fraternité, je sais qu'elles te suivront car fidèles et dévouées. C'est vrai qu'elles ont toujours eu ce fichu caractère. Mais ne serait de trop, non, 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 bien au contraire.
Allons enfants des colonies, son jour de gloire est arrivé.
Réveillons-nous, unissons-nous, afin d'éviter le pire. Un véritable tsunami qui nous jetterait dans un bien vague souvenir. Je t'ai vu, liberté, marchant la tête haute, alors relève-la pour qu'elle ne tombe sous le poids des fautes. Il est temps de redonner un vrai sens à nos valeurs. Rabat les rancœurs, c'est une question d'honneur. Au nom de mes pères, de leurs fils et des saints d'esprit, je t'en prie une dernière fois, dis.
Aurais-tu liberté d'oublier notre histoire? Aurais-tu liberté d'en perdre nos mémoires? Aurais-tu liberté me regarder dans les yeux, me dire qui? Toi et moi, nos voix n'en seront que plus belles. Comme mes pères, je te suivrai, marcherai à tes côtés, te prêterai ma voix. Entends-tu cette prière au nom de mes pères?
Chez moi, les anciens disent qu'il est difficile d'oublier, mais on peut pardonner. Au nom de mes pères, par le français de la Réunion, Davy Chicard. Vlad, il est temps, il faut qu'on demande la route.
Allez, bon, acceptez de nous l'accorder. Juste avant, je voudrais quand même dire qu'on aurait pu parler aussi des très nombreux tirailleurs sénégalais, enfin bref, tous les combattants africains qui ont été enrôlés pendant les deux guerres mondiales. C'est justement les pères dont parlait Davy Chicard, et auxquels on a marqué peu de reconnaissance, mais justement, on en reparlera. Et puis demain, on parlera de leurs enfants, puisqu'il sera question de l'immigration africaine en France. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à préparer cette émission. Il est 15h passé de 4 secondes sur France Inter. Voici le journal. Et les informations vous sont présentées par Bilal Tarabé.
On vient de l'apprendre, 54 700 personnes ont été tuées ou sont portées disparues et 2,5 millions d'autres sont sans abri en Corée du Nord après des inondations au mois de juillet. L'information a pu sortir de Corée du Nord par une association humanitaire sud-coréenne, Good Friends. Recueillement en Martinique, le crash de la West Caribbean, c'était il y a un an. 152 Français habitant l'île sont morts avec les 8 membres d'équipage colombiens. La France appelle Israël à lever son blocus du Liban. Déclaration de Philippe d'Ousteblasi à Beyrouth pour la quatrième fois en moins d'un mois. Le ministre des Affaires étrangères a déjeuné avec Fouad Signoria, le premier ministre libanais, et ses homologues des affaires étrangères turcs, malais et pakistanais. Philippe d'Ousteblasi faisait cette déclaration en compagnie de Saad Hariri, chef de la majorité parlementaire et